Serons-nous demain par Jean-Pierre Estampes ? Architecture, urbanisme, territoire, cadre de vie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet architectural. Il s'agit de l'incendie de Notre-Dame et le chantier aujourd'hui de réparation avec les problèmes qui sont soulevés par ce chantier. Alors, au moment de l'incendie, il y a eu, comme l'on sait, une grande émotion et aussi des prises de parole différentes et sur les réseaux sociaux, au niveau officiel, les spécialistes, les non-spécialistes, on a entendu beaucoup de choses. Or, il y a eu par exemple des réactions sur les 5 ans que demandait le président de la République pour que ce chantier soit bouclé. Beaucoup de gens qui se sont auto-attribués des grandes compétences sur les chantiers architecturaux en disant 5 ans c'était impossible, qu'il fallait 15 ans, il fallait 20 ans. Il y a eu aussi des réactions tout à fait négatives sur le choix du représentant de la maîtrise d'ouvrage qui était le général Georges Lain. Et en disant qu'est-ce qu'un militaire a à faire dans cette histoire. Et puis, on a eu aussi des grandes interprétations de soi-disant spécialistes où il fallait 2 ans pour sécher des pierres, 2 ans pour analyser le bâtiment avant de prendre des décisions. Enfin, toutes choses qui ne sont basées sur rien et sur des idées reçues ou fantaisistes. Et je pense que les réseaux sociaux ont un effet assez négatif pour propager ce genre de rumeurs. Alors aujourd'hui, nous allons parler du problème qui est posé par la charpente. Je vais surtout en parler dans la deuxième partie. Et avant, je voudrais rappeler, parce que c'est quand même le fond de l'histoire, c'est ce qu'est l'architecture gothique, l'architecture de Notre-Dame, quel est le rôle de la charpente, et ça va nous éclairer, je pense, sur ce débat de la reconstruction à l'identique, de solutions modernes, et la manière dont on peut organiser un chantier de cette sorte. Alors, c'est quelque chose que j'avais déjà dit dans une émission précédente sur la transparence et opacité. Il y a dans l'histoire de l'humanité, on peut dire, dans l'histoire des civilisations, 2 types de civilisations, 2 types de formes, les unes qui sont dans la massivité et les autres qui sont dans la légèreté. Je m'explique. Le monde méditerranéen, qui est l'origine de l'Occident de nos sociétés, qui commence à Babylone, l'Égypte, la Mésopotamie, l'Égypte, le monde grec et le monde romain, et notre Méditerranée, avec une modification de territoire où on bâtit des bâtiments qui sortent de la terre, qui sont bâtis avec des pierres, qui modifient le territoire. Et puis, il y a aussi les cultures du Nord qui ont pris le pouvoir à la fin de l'Empire romain, qui sont des civilisations mobiles, qui sont des civilisations de la forêt, qui ne sont pas des civilisations de modification du territoire, mais des civilisations qui vivent avec la nature, sans la modifier, parce que cette nature, la nature du Nord, elle est beaucoup plus impressionnante dans ses forêts, dans ses fjords, dans une mer indomptable. Et on a donc des peuples qui sont des peuples essentiellement navigateurs, des pêcheurs, donc des peuples mobiles. Alors, pour parler de l'architecture, l'architecture, elle est en phase avec justement cette mobilité des civilisations et elle utilise le bois, notamment puisque l'architecture des maisons est en continuité avec celle des bateaux. Donc on a en fait, avec dans notre pays, la confrontation de ces civilisations du Nord et de ces civilisations du Sud. Et je pense que l'originalité de la France, c'est justement d'être ce mélange et, on pourrait dire, cette synthèse des civilisations méditerranéennes et des civilisations nordiques. Alors, on a présenté très souvent dans les livres d'histoire le roman et le gothique comme une suite et comme une suite évolutionniste. J'en avais parlé la semaine dernière de l'évolution et de la différence qu'il y a entre les cycles et l'évolution. Et là aussi, je pense qu'on a une erreur de penser que l'arc brisé est une évolution de l'arc plein cintre. C'est ce qu'on voit dans les livres d'histoire. Quand on est enfant, bon, qui n'est pas partagé par tous les historiens et tous les historiens de l'art, c'est certain. Mais enfin, c'est, disons, quelque chose qui est assez communément accepté, le gothique, comme un progrès par rapport au roman. En fait, il s'agit de choses totalement différentes. La basilique romane, on a à Toulouse un exemple extraordinaire qui est Saint-Cernin, qui est la plus grande basilique romane de la chrétienté, toujours debout, Cluny étant démoli. Et c'est le plan et le plan du Christ, c'est le corps du Christ qui est en croix. La finalité de la basilique, elle est dans la proportion, elle est dans la permanence, dans la solidité. Et on a justement cet exemple extraordinaire avec une nef centrale et deux nefs latérales de chaque côté, donc cinq travées, ce qui est un exemple unique dans la chrétienté. Donc la cathédrale gothique, elle est totalement différente. Elle vient donc, comme je vous disais, elle vient du Nord, et on peut dire que sa finalité n'est pas la même, puisque sa finalité, c'est d'être la plus haute possible. Donc il y a une compétition de la hauteur, ce qui n'existe pas au niveau roman, où c'est plutôt la dimension, c'est la proportion, mais la finalité de l'un est la pérennité, ce que l'on peut voir dans les bâtiments romains qui subsistent dans notre territoire du Sud, de l'Occitanie notamment. Et cette opposition avec la cathédrale gothique. Alors, on a entendu dire au moment de l'incendie de Notre-Dame que les cathédrales étaient construites pour durer des millénaires. C'est totalement faux. La finalité de la cathédrale gothique n'est pas de durer des millénaires, mais elle est dans la prouesse technique. Et elle est extraordinairement technique et cette prouesse est totalement admirable. Donc, il ne s'agit pas de montrer une qualité supérieure à des choses qui, en fait, ne sont pas de même nature. En fait, la cathédrale gothique, comme je vous disais, elle est issue de l'architecture de bois, de l'architecture des bateaux, et elle reprend dans ses techniques le principe d'une armature de bateau, par exemple la voûte, qui est faite de panneaux, est totalement différente de la voûte romane. Mais cette voûte qui permet au bâtiment de monter, elle est en même temps très fragile. Elle est surtout, en fait, une traduction en pierre d'un bâtiment en bois. Et c'est ça qui est visible d'ailleurs quand on regarde à l'intérieur d'une cathédrale. On a des bourgeons, on a des feuilles. Il s'agit bien, c'est plus qu'une métaphore, c'est une mimésis. C'est vraiment des fûts de bois qui sont traduits en pierre. Pourquoi on les traduit en pierre ? On les traduit en pierre pour une raison qui est toute simple, c'est que le bois brûle et que la pierre ne brûle pas et que les bâtiments en bois, contrairement à ce qui est dit aujourd'hui dans une espèce de mythologie nouvelle créée sur le bois ne brûle pas, le bois est éternel. Bien sûr que c'était le problème de toutes les civilisations, c'était justement dans le problème des bâtiments en bois, c'est que les bâtiments en bois brûlent, les grands incendies des villes se sont succédés, les grands incendies des bâtiments, surtout dans une époque où même si les courts-circuits électriques font brûler les bâtiments avaient beaucoup plus de chances de brûler avec l'éclairage par des flambeaux, par des bougies, avec du feu, et les opéras, les palais, les châteaux sont une succession d'incendies à une époque où on avait peu de moyens pour les éteindre. Donc effectivement, le fait de les construire en pierre est une sécurité très importante, et on peut comprendre justement le choix de ce matériau. Alors il faut dire que la cathédrale gothique et la cathédrale romane sont de constructions différentes, comme je vous ai dit, sur un plan de la civilisation, mais également sur un plan de son élaboration technique. La tradition romane, qui est la tradition romaine, fait des bâtiments dont la finalité, comme je vous disais, est la solidité, mais aussi il y a, sur un plan de la technicité, il y a beaucoup moins de contraintes techniques. En clair, la cathédrale, les bâtiments, la basilique romane, les bâtiments romans demandent une technicité moins faible. Ça veut dire qu'on peut avoir une organisation beaucoup plus, je ne sais pas si on peut employer le mot démocratique, mais en tout cas plus ouverte sur un plan de la main-d'œuvre que la cathédrale gothique, qui en fait ne peut être faite que par une élite, par une aristocratie artisanale, du fait de sa complicité. Il s'agit bien d'un mythe sur la construction de la cathédrale, et il faudrait montrer la différence qu'il y a justement entre ces chantiers complexes que sont les cathédrales gothiques, et qui s'apparentent de plus aujourd'hui à des chantiers d'architecture métallique, mais on pourrait dire aussi aux chantiers mécaniques. C'est en fait, la cathédrale gothique n'est pas cette rencontre hasardeuse entre des corps d'État. Elle est organisée comme un chantier, et on peut dire à Toulouse, beaucoup plus près de ce que est le montage d'un Airbus que de la construction traditionnelle. En fait, le choix d'un militaire, je pense que c'est le hasard pour gérer la complexité de cette rénovation, reconstruction, réparation, je ne sais pas quel est le mot que l'on peut choisir, est assez intéressant, parce que justement, ces chantiers étaient organisés d'une manière militaire et il ne pouvait pas en être autrement. En fait, il s'agit pour l'essentiel d'un montage au sol, ça veut dire que les pièces de la cathédrale gothique, contrairement au massif épais d'une construction romane qui ressemble plus à la construction de béton, par exemple, aujourd'hui, mais on avait des massifs, on avait par exemple l'arc plein cintre qui était constitué de pierres semblables, tandis que dans le cas de l'architecture gothique, on a des pierres qui sont différentes du fait justement des formes complexes des voûtes, et tout doit être numéroté, monté au sol. Ça veut dire qu'on a certainement des hangars avec des ouvriers qui travaillent, on peut dire, à la chaîne, avec des pièces qui sont numérotés et qui sont ensuite assemblés d'une manière aussi périlleuse avec des cintres et des échafaudages. En fait, c'est une construction qui ne supporte pas la moindre défaillance. Donc, on a cette complexité de la construction, évidemment, qui va se reporter sur la construction. Donc, j'étais en train de vous dire que là, il s'agissait d'une construction de pierre, justement, pour éviter les problèmes du bois. Et on se trouve tout de même avec une difficulté, c'est la couverture. Alors, la couverture, c'est un toit. Et un toit, bien, à l'époque, on ne sait pas faire autrement avec cette architecture qui est une architecture légère de faire une charpente en bois avec une couverture étanche pour protéger des structures qui sont des structures extrêmement fragiles puisque, comme vous le savez, l'architecture gothique, elle est reportée sur des poteaux d'appui. Les voûtes sont ensuite reprises par les arcs-boutants pour faire un ensemble qui est un ensemble statique, mais qui est un ensemble d'une grande fragilité et qui est, disons, dans un équilibre relativement instable. Donc, la charpente, eh bien, on ne sait pas la faire autrement et on fait donc une charpente en bois pour protéger l'édifice. Mais le bois, il est pas choisi parce que c'est du bois, comme aujourd'hui on voudrait nous faire cette mythologie écologiste sur le bois. Il est choisi parce qu'on n'a pas, justement, on n'a pas le métal et on n'a pas d'autre solution que d'utiliser du bois, sachant que justement ce bois est assez fragile et il peut être sujet à des incendies. C'est pour ça que ce bois n'est pas du tout apparent. Alors on a eu des églises, par exemple l'église de Saint-Jean-de-Luz où les charpentes sont en bois et visibles, mais dans le cas de la cathédrale, la charpente, elle est du même niveau que les fondations. Les fondations, sur l'île de la Cité, ce sont des pieux enfoncés dans la terre. Et aujourd'hui, si la cathédrale tient, c'est qu'on a, comme la plupart des cathédrales de la chrétienté, les cathédrales gothiques, je veux dire, on a injecté du béton pour tenir et pour renforcer les points d'appui parce que le temps fait des déformations et que si elles sont la plupart debout, c'est justement parce qu'il y a eu des techniques modernes. Donc, la charpente, elle est cachée comme sont cachées les fondations. Donc, ce débat aujourd'hui sur la charpente n'a pas lieu d'être, mais je vais développer ça dans la deuxième partie. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'est cette différence qu'il y a entre l'architecture romane et sa massivité et quelque part sa simplicité constructive et ses qualités de durabilité et à l'opposé, cette technique extrêmement sophistiquée et complexe qui permet des performances mais qui est aussi extrêmement fragile.
I didn't have no pharaoh, not even no face. was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Don't you cry no more, don't you cry no more. Cause it's soon one morning down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. Somebody else.
Alors cette musique, c'est Kenneth Heath. Ce qui veut dire la chaleur en conserve, ce qui est effectivement d'actualité avec le sujet d'aujourd'hui. Le morceau, enfin, c'est plutôt le groupe, hein, Canadian, et le morceau, c'est On the Road Again, qui aussi veut dire que, encore sur la route, c'est aussi cette mobilité des artisans et des architectes de cette époque qui transportaient leur technologie et leurs innovations à travers toutes les grandes villes et tous les grands chantiers. Alors, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que dans l'architecture, il y a les parties visibles et les parties cachées. Donc, je parlais des fondations, et dans ce cas-là, de la charpente. Et il s'agit de choses qui sont totalement différentes de ce qui est volontairement vu. Et l'essentiel de l'architecture, c'est ce que l'on voit. Donc, aujourd'hui, quand il y a un débat sur les parties cachées, pourquoi on ne fait pas un débat sur les fondations, puisque la charpente est de même nature. Elle est uniquement pour ce que je vous disais, des questions de préservation de l'eau, donc des questions d'étanchéité. Donc, le débat sur son apparence extérieure qui doit être conservée, on pourrait dire qu'il n'y a pas débat. Mais par contre, sur ce qui est caché et la manière de le faire, il faut aller sur ce qui est le plus logique, le plus rationnel et aussi certainement le plus rapide, le plus économique et qui a qui nous donne l'assurance dans le temps de ne pas reproduire les mêmes sinistres. Bon, alors, le bois... On entend dire des choses absolument extraordinaires. Je vais vous dire ce que dit un spécialiste du CNRS, Bernard Thibault, qu'il dit quant à son inflammé. Alors, il parle du chêne tenu à l'abri de l'humidité. Le chêne résiste aux insectes presque éternellement. Bon, ça, on peut mettre en doute parce que les bâtiments que l'on voit en bois, notamment les bâtiments asiatiques, on parle de bâtiments qui datent de plusieurs siècles. En fait, ils sont reconstruits régulièrement à l'identique. Et donc, en fait, le bois est un bois récent. Et aucun de ces bâtiments n'a franchi, on ne parle pas d'éternité, mais des grandes époques, et que les bâtiments qui tiennent, c'est justement les bâtiments qui n'ont pas été construits en bois. Alors, ou alors, les bâtiments en bois, comme je vous le disais, ils ont été refaits. Alors, il parle de l'inflammabilité. Il faut savoir que des poutres en bois résistent plusieurs heures avant de s'effondrer, ce qui est vrai. Ce qui a permis aux pompiers de Notre-Dame de sauver nombre d'objets précieux, ce qui est vrai. Mais par contre, ce qui est absolument ridicule, c'est qu'il ajoute « Si la charpente avait été en béton et en acier, il n'aurait pas pu le faire par crainte d'un écroulement subi », précise Bernard Thibault, dit l'article. Simplement, le problème, c'est que, et ce n'est pas un problème, c'est que le béton et l'acier ne brûlent pas. Alors on dit « Oui, ils fondent s'ils sont sous les flammes ». Mais les flammes, elles sont faites par du bois. Par exemple, on sait qu'il y a eu le fameux drame du CES Pailleron, qui, je pense, il y a une quarantaine d'années, ou peut-être plus, où il y avait eu 30 morts, donc ça avait été un drame national d'un collège, et ce collège avait une structure métallique. Et donc, en fait, il a brûlé en quelques minutes. Il y a eu un incendie extrêmement rapide. D'ailleurs, ce que l'on a vu à la télévision à Notre-Dame aussi, c'était cet incendie qui était d'une grande rapidité. Mais ce qui a brûlé, c'était des cloisons en bois, des cloisons qui n'étaient pas ignifugées, qui n'étaient pas réglementaires. Et le bâtiment n'avait pas été construit dans les normes. Simplement, les cloisons ont brûlé comme un feu de paille, et la charpente qui était métallique, évidemment, c'est effondré, mais le métal, et comme le béton, ne brûle pas. Donc, quand on dit si ça avait été en béton, les pompiers n'auraient pas pu sauver les choses précieuses qui sont dessous, je crois qu'on est dans une grosse blague. Alors, c'est assez étonnant, c'est que ces arguments sont repris régulièrement. Il y a apparemment un lobby, alors je ne sais pas si c'est les architectes, les entreprises du bois qui sont à la manœuvre, mais on est dans l'absurdité totale, et on a par exemple une position qui est tout à fait récente, d'un vice-président de l'Ordre des architectes, qui est bon, un architecte, qui se sert de son titre et de sa fonction de vice-président, et on a dans la presse Notre-Dame de Point, selon l'Ordre des architectes, une charpente en bois serait la plus écologique. Alors, l'Ordre des architectes n'a pas une mission de compétence architecturale, c'est uniquement une organisation professionnelle comme l'Ordre des médecins et l'Ordre des avocats, et ils n'ont pas à donner d'avis technique. Et cet avis n'engage que la personne qui les donne. Il a tout à fait le droit de donner son opinion, mais comme on a le droit de la discuter. Donc, ce monsieur, Eric Wirth, il prétend que le bois serait la solution la plus écologique et garantirait au mieux la solidité de la structure. Alors, donc, je ne vois pas très bien ce que fait l'écologie dans cette histoire. Et puis, après, il y a une argumentation qu'il donne sur la solidité. Et ça, cette argumentation, elle est totalement fausse, à mon sens, parce que... alors, il reprend la même affirmation que Bernard Thibault du CNRS. Il dit « Si l'ouvrage avait été en acier, il n'y aurait plus eu de cathédrale ». Et même avec toutes les précautions vu le brasier, le fer tient une demi-heure, une heure, et après il se tord, il tire sur les parois, il fait tout écrouler. Oui, mais je ne vois pas très bien ce qu'il y aurait. Les cierges ne peuvent pas alimenter un incendie et faire brûler une charpente dans un bâtiment en pierre. Donc c'est quand même, c'est d'une rare imbécilité de continuer avec ce type d'argument. Alors, par contre, il donne une argumentation parce qu'il est contre les charpentes métalliques ou en béton parce qu'elles seraient beaucoup plus légères. Alors, ces cathédrales, elles tiennent structurellement parce qu'il y a une masse sur une voûte, ça ne fonctionne que parce que c'est lourd. Alors, ça, c'est totalement, à mon sens, totalement faux, parce que la cathédrale gothique, comme je le disais, c'est une sorte de... C'est une traduction du bâtiment de bois, donc c'est un bâtiment qui est léger par rapport à la masse, puisque elle est sur des nervures de voûte et une armature de poteaux avec des murs qui sont évidés pour avoir des vitraux et faire rentrer la lumière à l'extérieur. Donc, comme je vous disais, on est plus près de la structure métallique, mais on est avec la pierre. au maximum de la résistance. C'est-à-dire que, historiquement, la cathédrale de Beauvais, par exemple, qui avait dépassé, je crois, 45 mètres de hauteur de voûte, s'est effondrée, puisqu'on n'avait pas de calcul et on construisait d'une manière empirique. Donc, à un moment donné, on est à la limite de la charge de la pierre et cette limite technique ne sera franchie qu'au 19e siècle avec la fonte, le métal et le béton. Ensuite, dans le néo-gothique qui sera les premiers gratte-ciel de New York. Et puis après, évidemment, tout ce que l'on sait sur les constructions en hauteur. Donc, il y a une charge qui doit être limitée, puisque la pierre travaille. Il y a des tassements différentiels, et je pense que si on n'injectait pas du béton dans les fondations, on aurait un bâtiment qui pourrait se briser, et de par justement la plasticité et du bâtiment. Donc cet équilibre instable n'a pas besoin d'avoir un poids supplémentaire. Donc je pense que la pierre, avec son âge, et le bâtiment, a besoin au contraire d'un cadeau qui serait de l'alléger. Donc une charpente qui reprendrait le poids de la charpente ancienne qui a été faite, comme je vous disais, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, on n'avait pas des techniques à cette époque-là. Et je crois que à ce moment-là, s'ils avaient eu le métal ou le béton léger d'aujourd'hui, avec les systèmes de précontraintes, etc., bien sûr qu'ils l'auraient utilisé. Simplement, aujourd'hui, d'utiliser une solution qui est une solution archaïque et qui n'est même pas en phase avec cette architecture gothique est une imbécilité de l'époque et au nom de l'écologie, toutes les bêtises qu'on est amené à faire. Donc, je trouve scandaleux la position justement qui est dite de l'ordre des architectes, comme si une profession allait prendre position par rapport à ça. Il s'agit de lubie, et je pense, n'ayons pas peur des mots, d'une imbécilité ou d'une incompétence de ne pas comprendre justement l'histoire de ces bâtiments, leur complexité et comment aujourd'hui nos techniques permettraient de donner un allègement à cette vieille dame qui est Notre-Dame. Et c'était donc mon propos sur la charpente. Alors, il y a l'histoire de la flèche, mais là, je pense que c'est un sujet qui est beaucoup moins intéressant et important. L'enjeu n'est pas le même. La flèche est de Viollet-le-Duc. De toute façon, soit on la refait à l'identique avec des matériaux modernes à l'intérieur, soit on ne la fait pas, puisqu'en fait, on sait que elle n'existait pas avant, ou on n'a pas d'image réelle de ce qui était à l'origine. Certainement, Viollet-le-Duc l'a surdimensionné et Viollet-le-Duc n'est quand même pas à respecter totalement quand nous, Toulousains, nous savons qu'on avait dérestauré Saint-Sernin grâce au ciel parce qu'il y avait eu justement des interprétations assez fantaisistes qui avaient alourdi et même mis en péril la cathédrale par des matériaux du 19e siècle qui mettaient en péril la basilique romane. Bon, je terminerai sur cette note critique et donc nous verrons un nouveau chapitre sur ce sujet avec l'actualité. C'était Ouvrirons-nous demain. Merci à Hugo Pépitone qui officie à la technique. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie et sur l'application smartphone. Bonne journée à toutes et à tous et à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Où vivrons-nous demain ?